Le podcast À cœur d'elle est l'initiative de la table de concertation de Laval en conditions féminines et est diffusée dans le cadre du mois d'activité féministe de l'automne 2021. On milite pour une ville de Laval féministe et inclusive, une discussion à la fois. Bonjour et re-bienvenue au podcast À cœur d'elle pour un nouvel épisode. Ce matin, on va discuter de conciliation travail-vie personnelle et tout particulièrement de proche aidance. Pour avoir cette conversation très intéressante, je suis bien entourée de deux personnes. Bonjour Nancy, bonjour Patricia.
Bonjour.
Est-ce que vous souhaitez commencer par dire un petit mot pour vous présenter?
Oui, donc je suis très contente de participer au podcast dans le cadre de la table de concertation de Laval en conditions féminines. Donc, Patricia Collin, je me présente, entrepreneur culturel. Donc, moi, je travaille dans le domaine du loisir pour le mieux-être et je suis aussi animatrice conférencière Mandala. Donc, mon expérience d'aidante provient surtout présentement de mon accompagnement que je fais auprès de ma mère qui a une problématique santé mentale de bipolarité. Et j'ai un nouveau conjoint qui a deux enfants, dont un jeune fils autiste et une jeune fille à difficulté d'apprentissage. Et il y a 20 ans, j'ai accompagné mon père comme aidante naturelle jusqu'à la fin de sa vie, à une époque où ce n'était pas encore la mode.
Bonjour, bienvenue.
Alors bonjour, ben moi je me présente, mon nom c'est Nancy Goulet, je suis coordonnatrice aux opérations et intervenante à domicile pour l'Association Lavalloise des personnes aidantes, l'ALPA. J'ai une formation professionnelle en technique de travail social et j'ai une douzaine d'années d'expérience auprès des personnes proches aidantes à Laval.
Excellent, fait qu'on est très bien entourés pour débuter cette discussion-là. Encore un peu dans l'introduction, j'aimerais savoir plus précisément, en fait, c'est quoi les services de l'ALPA, puis la mission générale de l'organisme?
L'ALPA, c'est un organisme à but non lucratif. Sa mission depuis 2002 est de sensibiliser la population de Laval à la réalité des proches aidants en développant et en bonifiant ses services pour contribuer à leurs besoins sur le plan psychologique, familial, social, par son expertise en constante évolution. L'organisme offre des services de répit à domicile afin que la personne proche aidante prenne soin d'elle, du soutien psychosocial, individuel et de groupe, des formations et des conférences.
Excellent, merci beaucoup. En fait, là, tout simplement pour aller directement à la base, qu'est-ce qu'on entend par proche aidance et pourquoi c'est un enjeu important?
Je dirais que les personnes proches aidantes, ben ma définition, puis la définition qu'on retrouve beaucoup dans Internet, ce sont des personnes qui assurent volontairement des soins, des services ou de l'accompagnement, et ce, sans rémunération, à une personne de leur entourage ayant une ou des incapacités temporaires ou permanentes. Donc, ça peut être quelqu'un qui a eu un accident, ça peut être quelqu'un qui est malade, ou ça peut être quelqu'un qui est simplement là, en période de vieillesse dans sa vie et pour laquelle elles ont un lien affectif. Fait que ça peut être le père, la mère, un conjoint, une conjointe, un enfant, un frère, une soeur, une soeur, un voisin. Ça peut être très large. C'est un rôle additionnel, selon moi, à notre quotidien.
Oui, puis en fait, on en parlait un peu avant de commencer l'enregistrement, mais ce n'est pas un rôle qui est nécessairement naturel.
Non, ça, selon moi, c'est ça, l'appellation aidante naturelle, c'est ça, comme Chantal Fleury, humoriste et conférencière, le dit si bien, il n'y a rien de naturel là-dedans. C'est vraiment quelque chose qui vient s'ajouter au quotidien.
Comme on parlait en pré-entrevue, Nancy abordait le point et j'étais vraiment d'accord avec elle. Elle nous mentionnait comment on nomme que c'est une mission naturelle parce que c'est ma mère. Donc, le fait de la proximité avec la personne aidée vient faire comme si ça allait de soi. Et j'avais beaucoup apprécié quand elle disait que on avait le droit d'accepter ou non ce rôle-là. Et c'est un rôle qui vient avec beaucoup de responsabilités et beaucoup parfois de culpabilité, beaucoup d'émotions. Donc, ce n'est pas être aidant naturel, n'est pas le bon terme. Et on se disait qu'il faudrait peut-être reviser ce terme-là. Hein? Nancy parlait de la proche aidance, qui était peut-être un nouveau terme.
Mais bien, c'est ça, le nouveau terme, excuse-moi, par rapport à ça, ça, la nouvelle loi de Marguerite Blais, c'était vraiment personne proche aidante.
C'est ça. Hein? Moi, je disais que j'étais une aidante surnaturelle, parce que si c'était naturel, ça irait de soi, mais comme ça nous demande plein de ressources intérieures.
Ben oui, effectivement, puis je pense que c'est important de savoir, là, les statistiques sont quand même... parlante là, par rapport à la proche aidance. Je lisais là, qu'en 2015, c'est 85 % des soins aux aînés qui étaient assurés par des personnes proches aidantes. Puis, en fait, ma question là, qui en découle, c'est est-ce que la proche aidance affecte particulièrement les femmes? Puis, à votre avis, est-ce qu'on doit l'envisager comme un enjeu féministe?
À mon avis, oui. Parce qu'il y a plus de femmes qui donnent les soins d'hygiène à leurs conjoints ainsi qu'à des membres de leur famille que l'inverse. C'est également le cas en matière de proche aidance. On demande davantage aussi de femmes que d'hommes dans l'ensemble des types de soins et de soutien, des travaux domestiques, etc. C'est vraiment encore là la femme qui est là. C'est une Québécoise sur deux qui sera appelée un jour à devenir une personne proche aidante d'aînée. Puis combien d'autres seront sollicités pour prendre soin de leur enfant malade ou de leur conjoint ayant une incapacité en plus de ça. Les femmes sont plus nombreuses également à concilier la proche aidance avec un travail salarié. Il y a près du tiers de celles qui occupent un emploi ont aussi des responsabilités d'aidante. Alors, c'est quand même assez énorme. Alors que c'est le cas pour un homme sur cinq.
Donc, quand même une plus grande proportion là, de femmes qui sont appelées à jouer ce rôle-là qui, on le rappelle... et pas nécessairement naturel. Ouais, donc,
je me permettrais de poursuivre dans ce sens-là. En fait, la femme, je trouve, oui, a une perspective très féministe là-dedans parce que souvent, les qualités qu'on demande pour être aidant sont souvent des qualités qu'on attribue au volet plus féminin, que ce soit prendre soin, s'occuper, élever, tout ça. Parce que présentement, moi, ce que je vis, c'est vraiment d'être en sandwich dans mon rôle d'aidante parce que je dois aider la génération avant, celle qui s'en vient, et la génération après moi. Donc, je me retrouve à aider autant ma mère que les enfants de mon conjoint. Et je serais tentée de dire que même dans une famille reconstituée où on n'a aucun enfant, il y a une très grande pression à devoir performer dans le rôle de mère et dans le rôle d'aidante, même si les enfants sont dans ma vie, mais sont quand même sous la responsabilité d'un père qui a toute la juridiction d'autorité à l'école, partout, et moi, qui n'ai pas cette mère-là, je me retrouve dans le rôle d'aidante et d'accompagnatrice en ayant peu de reconnaissance et peu de pouvoir dans le fait que je ne peux pas arriver à l'école demander un service alors que je suis très, très impactée dans mon rôle d'aidante d'un jeune autiste qui a besoin, si c'est moi la personne le plus à la maison pendant que papa travaille, je trouve qu'on n'a pas ce levier-là comme accompagnatrice.
Oui, ça peut être un rôle un peu ingrat finalement.
Ça devient un rôle imposé, d'où le terme naturel qui n'est plus adéquat.
Oui.
Ouais.
Oui, puis en fait, on a peut-être aussi besoin de la perspective féministe parce qu'il y a des impacts concrets sur la vie des femmes, en fait, là, comme tu en témoignes, Patricia. Puis
ouais.
Si on entre là-dedans là, un peu plus dans les détails, quels sont les impacts de la proche aidante sur la vie des personnes proches aidantes, là, si je m'exprime comme ça, parce que j'ai quand même l'impression qu'on entend souvent parler des défis de la maternité, par exemple, ce que ça impose, mais peut-être moins le discours par rapport aux impacts de la proche aidance. Pourtant, il y en a.
Ça, moi, le plus grand impact que j'ai présentement, c'est sur ma carrière, du fait que d'être entrepreneur m'oblige à travailler à la maison, plus la pandémie. Et je dirais que financièrement, je trouve que je subis un grand impact. Il n'y a pas de reconnaissance, je n'ai pas d'allocation familiale, moi, parce que j'ai deux enfants qui restent dans ma maison. Je trouve que la famille n'est pas encore rendue à être considérée comme toute la nouvelle façon de faire. Et pour la proche aidance, je trouve qu'on n'est pas encore à jour. Donc, financièrement, moi, je dois manquer du travail. J'ai beaucoup d'impact dans ma journée quand il n'y a pas d'école, à être disponible, à aider, à accompagner parce que les habiletés ne sont pas présentes. Et ne serait-ce que des fois, je peux perdre un avant-midi au téléphone pour faire des paiements, des suivis d'intervenants et tout ça pour ma mère qui a un début Alzheimer. Donc, ça fait que dans ma semaine normale, où mon conjoint sort de la maison et va travailler, donc il n'a pas d'interruption comme moi, moi, j'ai l'impression que je suis plus impactée que lui. Donc, financièrement, j'ai des pertes qui sont claires. J'avance pas au rythme que je voudrais. Donc, pour moi, c'est une frustration. Ouais.
J'ajouterais en complément, Patricia, à ce que tu viens de dire, que ça réduit aussi le temps réservé aux loisirs.
Oui.
En général, ça, il va de façon plus vaste. Ça réduit aussi le temps que tu pourrais donner à tes enfants. Si, mettons, tu aurais des enfants dans un autre cadre de proche aidant, ça réduit ce temps-là aussi aux autres membres de la famille. Ça réduit le temps avec les amis également. Ça fait ressortir du stress. Ça, c'est clairement prouvé. Puis, on consacre aussi moins de temps au niveau de l'activité physique. C'est prouvé là, dans les statistiques au niveau de la prochaine danse. Puis souvent, ça peut même aller jusqu'à affecter une alimentation saine, hein, parce qu'on se dépêche, on est dans l'action, on est pressé, on prend soin de quelqu'un, fait qu'on s'oublie, fait qu'on peut, ça peut aller jusqu'à affecter l'alimentation. Puis c'est sûr que c'est une grosse charge mentale.
Oui, je suis d'accord avec Nancy en lien avec la charge mentale. Donc, on devient vraiment, à un moment donné, peut-être pris dans un cercle où on est comme plus présent pour l'aider que pour soi-même. Et nous, à la maison, on a un running gag, c'est que je me suis aperçue que souvent, j'étais en train de faire des tâches pour aider ma mère qui empiétait beaucoup sur mon temps personnel, parce que si je fais des suivis pour ma mère sur les interventions, la popote roulante, tout ça, pour l'aider à rester le plus longtemps possible chez elle, je me retrouvais à empiéter sur mon temps de travail. Et souvent, je vais travailler plus tard le soir. Donc, ça fait, dans mon cas, que mes journées deviennent beaucoup plus longues et j'ai beaucoup moins de temps de loisirs. Et j'avais remarqué à plusieurs reprises que j'appelais ma mère pour lui dire les suivis, genre aujourd'hui, maman, j'ai booké ta popote pour un mois, j'ai payé ton compte de téléphone parce qu'elle a besoin de ce support-là. Et elle me répondait toujours, je suis partie manger une frite. Et là, au fil des mois et des semaines, je suis devenue très frustrée. C'est devenu à la maison un running gag que, bon, ta mère, es-tu partie manger une petite frite? Et il y a quelques mois, je me suis mis le poing sur la table et je me suis dit, moi aussi, je veux manger des frites. Donc ça signifie que moi aussi, j'ai besoin de loisirs. Moi aussi, j'ai besoin d'avoir des moments pour moi où je ne m'occupe pas de personne parce que sinon, je suis toujours sollicitée. Donc, je crois que ça fait partie de la charge mentale dans le quotidien et ça nous épuise à long terme parce que ça devient très envahissant.
Ben oui, d'où l'importance de peut-être de rester en équilibre. Puis, en fait, est-ce qu'il y a des ressources qui existent pour aider les personnes proches aidantes à soutenir leurs personnes aidées? Puis, en fait, est-ce que peut-être même ces ressources-là vivent des défis? Bref, j'aimerais vous entendre là-dessus.
Oui, il y a beaucoup d'organismes, il y a beaucoup de ressources à Laval. On est chanceux. Le défi, c'est les listes d'attente, c'est le temps versus le financement. On n'apprend rien à personne en disant ça. Là, on manque de financement partout, donc ça provoque des listes d'attente parce qu'on ne peut pas développer plus nos projets, développer plus nos services. On est limité. C'est sûr qu'il faudrait faire du préventif. Il faudrait que les gens arrivent à demander à temps ou à l'avance, en amont des services, ce qui ne se fait pas. Les gens, souvent, comme on le disait tantôt, ce n'est pas naturel. Pour nous, c'est pas naturel. Pour eux, ça l'est. Mm-hmm. Fait qu'eux, ils attendent parce que, bon, ben si je prends soin de mon mari ou de ma mère, je suis pas proche aidant. Fait que là, ben ils se mettent complètement en état d'épuisement avant de nous arriver. Et là, malheureusement, on a des listes d'attente d'à peu près un an actuellement là, pour avoir du service de répit à domicile. Alors, c'est sûr que c'est le financement. Le référencement nous vient beaucoup du CIS de Laval, à 98 % du temps. Sauf que c'est ça, au niveau de nos subventions, il n'y a pas vraiment d'augmentation majeure, ce qui fait qu'on est, plafonné pour le moment. C'est un des gros enjeux.
Puis, est-ce que vous avez remarqué, en fait, si la COVID a changé la situation par rapport à ces listes d'attente ou l'accès aux services?
Oui, la COVID a accentué le problème des listes d'attente. Ça, c'est clair, parce qu'au tout début, les gens refusaient les services. Ils avaient peur d'avoir un inconnu à la maison. Ils étaient craintifs, avec raison. Donc, ils ont annulé le service de répit. Par la suite, au bout de 2-3 mois, ben, en étant toujours dans la maison avec la personne aidée, ben, ils se sont mis en état d'épuisement extrême. Donc, ils ont rappelé pour avoir le service, mais il y a plusieurs personnes qui ont retéléphoné. Donc, la liste d'attente a explosé. Ça, c'est du jamais vu là, depuis que je suis à l'ALPA, depuis 6 ans. J'ai jamais vu des centaines de personnes sur la liste d'attente. Fait qu'on sait même pas si ces gens-là, on va pouvoir les inscrire et on va pouvoir les desservir. À moins qu'il nous tomberait une subvention miraculeuse de quelque part, là, on pourrait y arriver. C'est sûr que l'isolement a été très difficile. Les gens se sont déconditionnés. Hein, ça l'a fait régresser les personnes âgées ou les personnes plus vulnérables. Fait que, c'est vrai, ça n'aurait vraiment pas été évident. On travaille encore pour le peu de gens qu'on est en mesure de recevoir pour les normes, selon les normes sanitaires là, actuellement au centre de jour. Les groupes sont très limités, puis on a remarqué qu'on repart de très, très loin avec les gens pour la stimulation.
Oui, donc c'est ce que je trouve vraiment intéressant là-dedans, c'est qu'on voit en fait que le problème, le manque de financement, a un impact sur les organismes, forcément sur les travailleurs, travailleuses des organismes, mais ça devient le problème, en fait, de monsieur, madame, tout le monde, lorsque ces personnes-là auraient besoin de services, puis en fait, les services sont juste pas disponibles.
Effectivement.
Moi, j'aimerais ajouter que la situation d'un aidant va se transformer pendant le parcours. Donc, moi, dans mon cas, aider à supporter ma mère qui avait un trouble de bipolarité, je considère que je suis née, j'ai commencé à être une aidante très, très, très jeune. À 7-8 ans, déjà, j'étais une aidante, mais je ne le savais pas. Donc, souvent, quand on est aidant, ça devient comme une culture. Et c'est comme si on gradue et on évolue tellement avec la personne aidée que on s'en rend pas compte qu'il y a un glissement entre le « je suis juste présente » à « je deviens l'aidante ». Et c'est toute la difficulté pour les personnes de demander de l'aide, parce que si je me vois pas en train de glisser, à ajouter au fil des jours, au fil des heures, beaucoup de choses pour supporter ma personne aidée, que moi j'aide, comment j'arrive à pouvoir vraiment évaluer mon désir de besoin? Il y a aussi tout l'aspect émotif où on se dit, ben voyons donc, ça se peut pas que je sois débordée, je peux pas être capable d'en prendre soin, ma mère m'a élevée, je lui dois bien ça. Donc, il y a toute cette dynamique-là qui est présente. Et pour avoir été utilisatrice, moi, des services, présentement, on a des services de travailleurs sociaux avec ma mère où on vit une expérience fabuleuse où je travaille en partenariat, en équipe avec l'intervenante. On s'appelle, c'est comme une collègue de travail. On a bien divisé où on a des champs pour que je redevienne la fille de ma mère. Et on a une autre expérience du côté de mon beau-fils autiste où là, c'est plus compliqué, où on a l'impression qu'au lieu d'être accompagné et aidé comme famille, comme cellule, on est plutôt dans une dynamique où on est en train de nous parler de notre incompétence et on nous fragilise comme famille au lieu de nous accompagner. Et ça, c'est hyper important que les intervenantes, dans la perspective féministe, se rendent compte de l'impact qu'elles ont dans la façon dont elles interviennent avec nous, les femmes, qui sommes de première ligne. Parce qu'on s'entend que les aidants sauvent beaucoup d'argent dans le système. Ben, oui. Je suis sûre que Nancy va aller dans ce sens-là puis va pouvoir ajouter là-dessus. Là. Enlever les aidants, là, puis allez voir, là, on avait peur que le système de santé soit engorgé là, avec la COVID. Ben, on n'a rien vu. Si nos aidants se fatiguent, sont épuisés, qui va prendre soin des personnes qui, présentement, ont besoin d'assistance, là? Moi, ça me questionne.
Ben oui, ben c'est un excellent point, en fait, là, que dans une perspective plus macro, la prochaine danse, c'est sûr que ça sauve des milliards à l'État québécois, là, c'est oui, certain.
J'irais même plus loin en disant qu'on est peut-être en train de se créer un nouveau burn-out particulier. Hein. On parle souvent du burn-out professionnel, mais moi, je considère qu'il y a le burn-out familial ou le burn-out parental qui peut se pointer à force d'être trop présent à accompagner. Hein.
Bien, justement, pour éviter le burn-out, est-ce que vous avez une idée des bonnes pratiques qui pourraient être recommandées d'adopter pour, en fait, rester dans l'équilibre dans la proche aidance, notamment pour les femmes qui sont dans cette situation-là d'être proche aidante?
Bien, en fait, c'est sûr qu'il vaudrait changer que le fait d'être proche aidante, c'est un don de soi, puis on le fait par amour, puis etc. Il faut partir de la base en se demandant « Est-ce que ça me tente d'être proche aidante? » Puis « Est-ce que j'accepte ce rôle-là? » Parce que c'est quelque chose, selon moi, qui se refuse. C'est quelque chose qui peut se transformer autrement, mais ça se refuse. Il faut apprendre à se donner du temps de qualité en tant que femme, pas seulement donner du temps à la personne aidée. De là l'importance d'équilibre qu'on vient de parler. Puis il faut se préparer à avoir des deuils blancs également, parce que il y a des deuils tout au long de la prochaine danse. Tu nous pourras en parler un petit peu, Patricia, après. Là, la personne qui aide vit des deuils constamment. Aller jusqu'au deuil, justement, de la séparation que la personne est en fait de vie ou qu'elle décède ou qu'elle quitte en hébergement. Je pense que c'est possible d'apprendre à intégrer ça, mais encore là, comme je disais tantôt, il faudrait que ça soit en amont. Il faudrait vraiment que ça soit... que ce soit les GMF, les groupes de médecine familiale, là, par exemple, qui pourraient détecter que la personne est proche aidante et qui pourraient commencer à l'outiller tout de suite au début du processus. Je ne pense pas que le fait d'être proche aidante, c'est obligatoirement de vivre de la culpabilité puis d'avoir de la souffrance à l'intérieur de ça. Je pense que c'est une culture aussi. Je pense que c'est une philosophie qu'il faudrait amener à changer. Pour la changer, bien, on part de loin. Il faut que la personne sache qu'elle est proche aidante au tout début. Et puis, c'est ça, là. Il y a beaucoup de travail. C'est un travail de collectivité qu'il y a à faire. Je vais laisser, je pense, Patricia parler un petit peu des deuils à travers la proche aidante.
Merci, Nancy. Donc, en fait, à partir du moment où on accompagne quelqu'un, on a beaucoup de deuils. Pour ma part, moi, ce que j'ai vécu, c'est qu'à la base, c'est le premier deuil, c'est la base d'une vie normale. C'est pas là, ça sera pas là. Il faut réinventer notre façon de percevoir les choses. Si on se compare trop, ça peut devenir très souffrant. Je me compare à d'autres familles qui ont une réalité beaucoup plus facile que nous à la maison. C'est deux mondes complètement différents. Je trouve qu'il y a le deuil aussi de faire des choses avec la personne d'une façon où c'est simple et dégagé. Donc, souvent, j'appelais ma mère avec plein de bonnes intentions, puis je me retrouvais finalement avec une conversation où à la fin, je vivais de la colère, où on avait de l'incompréhension et tout ça. Donc, à chaque jour, je devais faire le deuil que ma relation avec ma mère n'était pas toujours facile, n'était pas toujours douce. Donc, ça m'a demandé d'aller chercher du support, d'aller chercher de l'aide en psychothérapie, plein de façons. Il ne faut pas hésiter à aller chercher des outils pour soi. Et je trouve qu'on a aussi le deuil de notre temps, de notre liberté, parce qu'on est tellement présent à l'autre qu'on doit se réapproprier notre vie, parce que on dirait que nous, les aidants, on n'a pas le droit d'avoir du fun. C'est une aidante, ça vient un peu de l'extérieur, de la société. Genre, une aidante qui aurait trop de fun, c'est quand même, mon Dieu, elles ont bien à côté de ses pompes, tu sais. Alors qu'une aidante qui prend du temps pour elle aussi, ça peut se sentir coupable. Moi, autour de moi, j'en vois des aidantes présentement qui prenaient zéro temps de loisir. Et là, on a fait, ben voyons, il faut intégrer un bloc loisir par le mandala. Et qu'est-ce que tu peux faire? Peux-tu prendre un après-midi par semaine? Et là, toute la gymnastique hein, d'avoir la personne qui vient donner du répit à la maison, ça devient vraiment assez lourd. Des fois, ça devient tellement lourd à gérer que finalement, les aidants, ils n'en demandent pas d'aide parce que c'est tellement inapproprié que finalement, ben, c'est moins de trouble de ne pas en demander. Donc, moi, je considère que je suis en deuil tout le temps parce que la personne avec qui je suis aussi va évoluer et il y a comme un non-retour. Donc, ça fluctue. Il y a des bouts où ça va bien, il y a des bouts où ça va moins bien, mais ça nous oblige toujours à être en suradaptation. Et je trouve que le loisir doit être de plus en plus propulsé et vraiment inciter les aidants à avoir des moments de loisir. Ça, là, c'est des respirations qu'on se donne pour être capable de continuer parce qu'un aidant qui va se ressourcer va être beaucoup mieux adapté à accueillir tout ce qui vient avec l'aide qu'il doit apporter. Donc, j'avais aussi parlé avec vous l'autre jour du préventif au lieu d'être dans le curatif. On va aider les aidants là, quand ils lèvent la main, puis il y a le drapeau rouge, là, puis qu'il n'en peut plus, puis il est presque étendu à terre, puis il faut presque se fâcher pour avoir un service. En fait, il faut montrer qu'on est en état de crise. Si tu n'es pas en état de crise, bien, tu es sur la liste, ça attend. Puis là, la COVID, nous, a fait un état de crise avec notre jeune autiste, et là, on a eu un service. Et c'est plate à dire, mais on s'est demandé s'il n'y avait pas eu de COVID, si on aurait eu ce service-là, et on pense que non. Je trouve ça grave de réaliser cette chose-là. Donc, je serais tentée de vous dire qu'on devrait être en train d'aider les familles, les aidants à avoir une qualité de vie. malgré qu'on est en processus de cheminement. Et oui, le grand changement qui va arriver, c'est que notre aidé ne sera plus là. Donc, si moi, dans ma vie, je ne commence pas à me faire une plage horaire où j'intègre le loisir, que ce soit la musique, la danse, des choses qui me font du bien, bien, quand ma personne que j'accompagne sera plus présente, je vais me retrouver les bras ballants avec un énorme vide. Donc, moi, je pense qu'on doit toujours se préparer. Et le mot-clé qu'on avait parlé était le mot équilibre. Donc, prendre soin de soi en prenant soin de l'autre, je pense que c'est hyper important.
Bien, c'est oui. Le titre d'une revue qu'Alpa a écrit pour les prochains dents, puis on essaie de retourner là, prochainement en réédition.
Ah oui?
Oui.
Bien oui, puis d'ailleurs, quand on parle d'aider les aidants, en fait, je crois que l'ALPA avait comme des revendications là, précises par rapport à ça.
Bien, en fait, nous, c'est sûr qu'on trouve que le délai pour recevoir des services, il est trop long puis il est trop ardu pour la personne proche aidante. C'est complexe. Il faut téléphoner, c'est une messagerie vocale, il faut laisser un message, il nous rappelle. Il y a plusieurs téléphones à faire, puis le proche aidant va devoir raconter son histoire plusieurs fois dans divers endroits, tout dépendant là, le diagnostic de son aidé. Un exemple, si j'accompagne quelqu'un atteint de maladie Alzheimer, ben j'ai besoin du CLSC pour avoir des services chez moi. Je dois composer le 811, option 2, laisser le message, ils vont me rappeler. Ensuite, ils peuvent faire une courte évaluation par téléphone ou ils peuvent venir à mon domicile pour évaluer mon proche. Ensuite, mettons dans Laval, j'ai droit à l'ALPA pour le répit à domicile. Donc, là, je vais appeler à l'ALPA et là, je vais tout recommencer mon histoire de proche aidante. Je suis qui? C'est qui mon aidé? C'est quoi le diagnostic? C'est quoi qu'elle aime? C'est quoi qu'elle aime pas? Les médications? Côté cognitif, comment ça va? Son histoire de vie? Fait que c'est quand même très large des informations qu'on a à fournir. Puis ensuite, mettons, il y aurait la société Alzheimer que j'aurais le droit. Fait que pour Laval, là, j'aurais le droit à ces trois endroits-là pour quelqu'un atteint d'Alzheimer. Donc, je me répéterai trois fois. Je suis épuisée, je suis déjà au bout du rouleau, je suis épuisée. Fait que c'est sûr qu'on suggère d'avoir un guichet universel, ça serait vraiment dans un monde idéal, ça serait c'est ce qui contribuerait à réduire la fatigue des proches aidants idéalement. Là. Mettons, si on a une baguette magique, là, le proche aidant appelle à une place, puis les portes s'ouvrent où il peut avoir des services, puis il raconte son histoire une fois, puis l'histoire de son aidé, puis c'est terminé.
J'ai envie de faire du pouce en disant il faut que ça devienne un projet de société. L'idée du guichet unique, les rencontres multi, est-ce qu'il y a possibilité que la personne parle une fois et qu'il y ait trois ou quatre intervenants qui puissent être de différents endroits pour que la personne ne s'épuise pas à raconter sa vie? Premièrement, on a une perte de temps qui est très grande à engorger un peu le système en racontant comme ça. On avait parlé, est-ce qu'il ne pourrait pas exister une entité qui deviendrait le lieu? On parle de guichet unique, mais est-ce qu'il ne pourrait pas avoir un endroit où on pourrait vraiment créer des lieux où on pourrait un petit peu éviter peut-être de dupliquer des fois des services? Il y a des endroits où on a des services, où on a des équipes de 10 intervenants pour un jeune autiste. Et je me dis, je ne peux pas croire qu'on n'est pas capable de scinder en deux pour aider deux familles. Donc, moi, je pense qu'on doit se réinventer. On doit recommencer à évaluer nos pratiques. Moi, je viens du milieu de l'animation où, en interaction sociale, on se doit de toujours être en mouvance, de réaménager, réinventer, étudier, revérifier. Je trouve qu'il y a comme une stagnation où on doit un petit peu brasser les cartes et se dire « Ah, moi, j'ai toujours fait ça comme ça. Ouais, bien, il est peut-être temps de changer ça. » Parce que là, présentement, en plus d'épuiser les aidants, on est aussi en train d'épuiser les intervenants. Et je ne vois pas où on s'en va avec ce style de gestion-là. Donc, je crois que aussi on avait parlé d'un thème qui était que quand on demande de l'aide, ça nous demande un effort parce que des fois, on ne veut pas admettre qu'on n'est plus capable d'aider. Et moi, je considère pour ma part que appeler demander de l'aide, des fois, c'est un one-shot aussi important et difficile à faire que quand on doit prendre le téléphone pour appeler parce qu'on a une pensée suicidaire. Je pense qu'il faut prendre ça en compte dans l'offre de service, qu'on ne peut pas dire aux gens, bien, appelez une fois, puis si on n'est pas là, on va vous rappeler, puis on va vous rappeler. Donc, quand la personne, elle appelle, là, elle est en détresse, puis si elle appelle, c'est parce qu'elle n'en peut plus. Donc, le 24 heures, le 48 heures, il est comme trop, je pense, dans l'attente. Et l'autre chose aussi, Nancy nous avait fait un très bon commentaire que j'avais trouvé, ça m'a jeté à terre. cette semaine en disant quand elle faisait les évaluations pour les familles, elle allait dans les maisons, elle dit « Des fois, j'arrive et je ne suis pas capable de savoir qui est l'aidé et qui est l'aidant. » Moi, ça m'interpelle. Et on parlait du fait qu'on voit beaucoup d'aidants qui finissent à être tellement épuisés qu'ils décèdent avant la personne qu'on accompagne. Donc, comment on peut donner une qualité de vie? Parce que moi, je me dis aussi, pendant que j'aide, moi, ma vie, elle passe. Puis moi, j'ai besoin de profiter au maximum de tout ça. Donc, comme on disait tantôt, le don de soi et tout ça, c'est bien beau, mais à quel prix? J'aide à quel prix? Est-ce que je peux aider en ayant une qualité de vie? Moi, c'est ça que je veux. Comme je disais tantôt, moi aussi, je veux en manger des frites. Donc, comment je peux avoir une qualité de vie en accompagnant quelqu'un? Puis comment le réseau peut m'aider là-dedans aussi?
Des réflexions très pertinentes, en fait. Là, surtout, ça me fait penser là, avec la population qui est vieillissante. Les aidants, en fait, sont aussi vieillissants que les aidés. Donc, des bonnes questions à se poser pour la suite des choses dans la société. En terminant, en fait, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a un aspect de la proche aidance qui est méconnu puis qui, selon vous, mériterait d'être démystifié? Ou, en fait, est-ce que vous avez en tête un outil qui mériterait d'être connu puis qui pourrait aider une personne, par exemple, proche aidante qui nous écoute à s'outiller, en fait, à travers son cheminement?
Bien, moi, je te dirais que le volet du couple dans la proche aidance est encore assez méconnu. Le proche, il ne reconnaît plus son conjoint de par ses comportements et il ne sait plus trop quoi faire afin de l'accompagner. Ça se voit au quotidien dans nos interventions. Pour ce faire, il existe une méthode qui se nomme Tipassino. Ça, c'est le nom de la fondatrice. Ces approches favorisent des résultats positifs, ça encourage la modification des attentes des tâches, puis ça crée un environnement favorable qui correspond vraiment aux capacités conservées de la personne qu'on prend soin, que l'on aide. Elle enseigne la valeur de la connexion lorsque les capacités primaires puis la communication verbale là, de l'interaction sont altérées. Nous, chez ALPA, c'est sûr que la directrice générale a suivi assez frais, parce que c'est quand même assez dispendieux, assez frais la formation de Tipassino. Puis maintenant, elle est capable de coacher, donc elle coach certifié, elle peut l'enseigner. Fait que c'est quelque chose qu'on ouvre aux proches aidants de Laval. Ça peut être un très bon outil de venir suivre les ateliers de Tipassino. C'est au coût de 20 $ la carte de membre, puis on la donne gratuite, justement pour transférer les connaissances. Pour vous donner une idée concrète, là, parce que comme ça, c'est bien beau des mots, là, mais ça ne dit pas grand-chose. Exemple, si la personne ne veut pas se brosser les dents, bien, je ne brosse pas les dents à sa place. Je lui mets la brosse à dents dans les mains. Il y a une façon de soutenir la main, de l'amener à la bouche et de faire avec et non pour. Bien, la méthode Tipassino, c'est comme ça à peu près dans tout. C'est comme ça pour accompagner la personne, pour l'aider à marcher dans un corridor, pour qu'elle se lève, pour communiquer, une façon de communiquer aussi avec la personne dont les capacités cognitives sont altérées. Je vous résume ça en gros, mais c'est offert chez nous en soutien justement pour les personnes proches aidantes. Également, j'ai écrit un livre qui se nomme « Coup de pouce en capsule » grâce à la contribution financière du programme « Nouveaux horizons pour aînés ». Le livre est disponible en version française et anglaise. Il est au coût de 15 $. Il est disponible à nos bureaux de Laval. Si jamais quelqu'un le veut par la poste, je comprends très bien parce que des fois, on est épuisé ou on n'a pas le moyen de transport pour se déplacer. À 21 $, là, je fais l'envoi là, postal. Il y a même possibilité de faire des dédicaces là, si les gens, ça leur fait plaisir. Ce sont toutes des capsules faciles à lire sur différents thèmes. Le caractère est écrit gros, ça a été pensé pour le proche aidant. Il y a plein de thèmes à l'intérieur, comme, mettons, les soins d'hygiène. Si j'ai de la misère avec mon proche qui est atteint de maladie d'Alzheimer, une maladie apparentée, puis j'ai de la difficulté avec lui, bien, je peux avoir des trucs dans ça. Pour l'alimentation, pour l'habillement, pour la conduite automobile. Dieu sait que c'est un gros deuil. Si quelqu'un faut lui retirer son permis ou faut l'amener à plus prendre la voiture, bien, je ne suis pas experte en la matière. C'est sûr qu'au fil des années, au fil de mes 12 ans terrain avec les proches aidants, j'ai développé des trucs. Je les ai répertoriés à l'intérieur. Et puis, tu sais, j'ai complété avec des recherches Internet. Fait que j'ai essayé de rendre ça le plus facile possible pour le proche aidant. Si le proche aidant est trop fatigué pour le lire, ça se peut, parce que des fois, il y en a qui sont tellement à bout que même la lecture est ardue. Les capsules vidéo se retrouvent sur le site Internet de l'ALPA. Donc, au www.aldpa.org, sous l'onglet ressources, on peut aller s'inscrire et on a accès gratuit à plusieurs capsules qui ont été tournées là, sur les mêmes thèmes qui sont disponibles dans le livre. Fait que ça peut toujours aider les gens, bien, ça nous fait plaisir.
Bien, merci beaucoup pour ces informations-là. Évidemment, tout ça se retrouve sur le site de l'ALPA. Pour plus d'informations, on peut communiquer avec vous. Donc,
oui.
Merci beaucoup.
Plaisir.
Et puis, Patricia, avais-tu quelque chose à ajouter au niveau d'un aspect qui mériterait d'être démystifié de la prochaine danse?
Oui, j'aimerais qu'on parle rapidement du fait qu'on doit se questionner sur les raisons de notre besoin d'aidance, entre guillemets. Parfois, dans les familles, le rapport d'aidance n'est pas équilibré. Il y a des gens qui vont aider beaucoup, genre un beau-frère qui va être omniprésent, qui fait que le reste de la famille n'est plus capable de s'impliquer. Et là, ça va comme centraliser vers une personne. Et on se rend compte que cette personne-là, des fois, elle va faire l'aidance parce que c'est bon pour son égo, parce que ça valorise, parce que ça donne un sens à sa vie. Donc, peut-être réévaluer pourquoi je suis aidante. Est-ce que je suis une aidante pour les bonnes raisons? Et Nancy a vraiment été dans le sens où j'étais en train de réfléchir en disant, est-ce que mon aide empêche ma personne que j'accompagne de continuer de garder ses acquis? Est-ce que je ne suis pas en train de tellement compenser que je suis en train de la faire reculer dans le sens où, par exemple, j'y brosse les dents, donc elle est en train de perdre l'habileté de le faire elle-même? Je crois qu'on doit se questionner là-dedans. C'est accompagner, ce n'est pas faire à la place, c'est marcher à côté. Hein. C'est une phrase que vous devez sûrement déjà avoir lue. Et moi, ce que j'aimerais aussi apporter, c'est tout l'aspect loisir, l'importance du loisir dans notre vie. Quand il y a des deuils, parce que nous, on a nos deuils, mais notre personne qu'on aide a ses propres deuils. Et retirer le permis de conduire, par exemple, peut devenir vraiment atroce pour la personne aidante parce que c'est elle qui va avoir les colères et les incompréhensions qui viennent avec le fait de ces deuils-là pour la personne qu'on accompagne. Donc, l'importance du loisir est d'autant plus forte qu'on a besoin de s'aérer de ça. Donc, moi, dans Gestion Passion, mon organisme que j'ai mis en place, on fait de l'activité de loisir avec la musique, on fait des ateliers mandala. En fait, l'idée, c'est d'essayer d'amener des outils vers les personnes qui ne peuvent pas toujours se déplacer pour aller chercher le loisir. Et on n'en parlera jamais à de l'importance que ça a pour l'âme, pour la santé mentale, pour le cœur. Le loisir, là, c'est ce qui nous permet de respirer, c'est ce qui nous permet de continuer. Donc, moi, je vous invite, peu importe qui vous êtes, tout le monde, on doit avoir des loisirs et on doit se redécouvrir dans ce qu'on aime faire pour avoir une vie la plus grande qualité de vie possible et surtout avoir du fun jusqu'à la fin. On ne devrait pas, parce qu'on est aidé, être sur pause. On devrait être encore vivant. Ce n'est pas nous qui sommes dans la situation. Donc, je crois que ça nous demande beaucoup de ressources intérieures. Mais si on met en place plein d'outils, des intervenants, du support, du loisir, on a une belle recette pour être capable d'accompagner jusqu'à la fin notre personne qu'on aime le plus. Prendre soin, de qui on aime prendre soin, finalement.
Oui, exact. Bien, merci beaucoup, mesdames, pour vos interventions vraiment pertinentes. Puis, en fait, toute cette belle réflexion-là, j'ai l'impression qu'il pourrait se résumer en un mot, notre mot préféré aujourd'hui, l'équilibre. Donc, tendre vers l'équilibre et pas s'oublier là, à travers le cheminement de la prochaine danse. Donc, je vous remercie.
Plaisir. Merci.
Au revoir.
Vous venez d'écouter le podcast À cœur d'elle, à l'animation Justine Bouvier, à la composition musicale Marika Galea, au graphisme Véronique Lee, enregistré au studio Espace Numérique avec le soutien financier de la Ville de Laval et du secrétariat à la condition féminine dans le cadre de l'entente régionale en égalité